Escale, un magazine hebdomadaire des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale s'intéresse à la défense des droits de l'homme dans les pays africains où sont déployées des opérations de maintien de la paix. Et pour illustrer cette situation, rien de tel que les témoignages des responsables de ces entités, tant en République démocratique du Congo qu'au Soudan du Sud, deux pays qui ont connu ou connaissent des soubresauts et les vicissitudes d'un long conflit. On commence donc avec la République démocratique du Congo. Christina Silvero a rencontré le responsable de la composante des droits de l'homme basée à Kinshasa, qui représente à la fois le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et la MONUSCO, la mission de maintien de la paix déployée dans le pays. José María Aranaz, qui revient sur la spécificité du mandat en RDC.
Après que le Conseil de sécurité a donné à la MONUSCO un mandat de protection des civils dans le cadre des élections, la mission a utilisé l'information qui était compilée par les composants des droits de l'homme pour identifier quels sont les points plus chauds en matière de tensions politiques et pour justifier ou bien pour s'appuyer, pour faire le rééquilibrage de la présence de la force et de la police qui était surtout déployée aux provinces de l'Est. Il avait une menace plus forte de résurgence de la violence politique. Ça veut dire, par exemple, la ville de Kinshasa, ou Lubumbashi, Kisangani, principalement. Et dans ce cadre, par exemple, après la menace de manifestation et d'éruption de violence à Kinshasa, la mission a établi un centre tactique de coordination qui met ensemble les composants des droits de l'homme, la force, la police et l'unité d'analyse, et qui nous a permis le déploiement des patrouilles conjointes dans les cas de besoin ou pour faire le monitoring ou quand il avait des besoins de patrouiller des zones où il avait des problèmes de violence ou de répression politique excessive par les forces d'ordre, avec le but d'éviter la violence et avoir une protection des civils dans ce contexte.
Quelles sont les priorités désormais pour 2017, sachant que l'on voit d'une part la recrudescence de groupes armés qui reviennent sur le territoire à l'est, mais aussi un processus électoral qui doit être mené à bien avant la fin de l'année?
La situation à la RDC, c'est compliqué parce qu'il y a d'un côté la présence des groupes armés nationaux et internationaux qui sont une menace grave et forte contre la population congolaise. Je parle de l'FDLR, de l'ADF et des LRA, ce sont des groupes rwandais et ougandais qui sont une menace très forte contre la population. Il y a aussi des groupes armés nationaux qui commettent des violations graves des droits de l'homme, mais en même temps, le pays se prépare pour un processus électoral qui, jusqu'à un moment, elle était disputée et qui était accompagné par une répression forte des droits civils et politiques, ça veut dire des droits d'expression, association et manifestation politique pacifique, de l'opposition, de la société civile et des médias. Alors, ça veut dire, à ce moment, la mission confronte au moins des défis importants, les défis traditionnels de la neutralisation des groupes armés à l'Est, mais de l'autre côté, c'est le nouveau type de menace qui vient du processus politique. Aussi, il y a un troisième type de violence ou de groupes armés qui a commencé à être détecté, par exemple, à la province de Tanganyika, ou à la province de Kasai, à la province de Congo central, qui ce sont des conflits de type coutumier, aggravé par d'interférences politiques qui manipulent la situation, que ça c'est préoccupant. Et au-delà de ça, il y a aussi une grave crise économique qui surtout impacte la grande majorité de la population. Donc presque 82% de la population habite avec un salaire de supervivance de moins de $1.50 par jour. Alors, c'est la combinaison de la répression politique et de la crise socio-économique qui fait la situation explosive et qui crée une possibilité réelle de violence qu'il faut éviter. C'est pour ça que nous sommes en République démocratique du Congo pour donner l'appui aux autorités pour éviter cette explosion violente.
Original.
Hasala.
vous allez pouvoir appuyer dans ce processus électoral et pour éviter qu'il y ait justement explosion?
Le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a un réseau de 18 bureaux de terrain qui compilent l'information des violations des droits de l'homme qui sont partagées de manière routinière, de manière mensuelle au moins, avec les autorités et qui contribuent à identifier où il y a des problèmes et aussi quels sont les auteurs de violations des droits de l'homme pour les traduire en justice. Nous avons une collaboration fluide avec les autorités, surtout de la justice militaire, mais aussi avec les autorités comme le ministère des Droits de l'Homme, le ministère de la Justice et des autres institutions de l'État qui nous donnent l'appui. Dans l'année passée, seulement, nous avons contribué à l'organisation de 200 activités de formation ou vulgarisation des droits de l'homme, de renforcement institutionnel, soit pour les autorités locales, nationales, la Commission nationale des droits de l'homme ou la société civile.
Comment est-ce que vos efforts et votre activité sont reçus par les autorités?
Les activités d'appui de formation, c'est une demande constante des autorités de la RDC que nous sommes prêts à appuyer. Et il y a, comme toujours, des messages qui ne sont pas toujours d'accord dans les messages ou dans les rapports, mais ça c'est quotidien dans tous les pays du monde. Mais il faut être clair, nous sommes ensemble pour donner l'appui au renforcement institutionnel, même des institutions du gouvernement, de la société civile ou la Commission des droits de l'homme, qui à la fin sont ces institutions qui feront le système durable et à la fin la protection des droits de l'homme, c'est une responsabilité des autorités de l'État. C'est pour ça que nous sommes ici pour donner notre appui à cette institution.
Autre interlocuteur, Eugène Nindorera. Il dirige, lui, la composante droits de l'homme de la MINUS au Soudan du Sud, la mission des Nations Unies, tout en représentant aussi le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Au micro de Jocelyne Sambira, Eugène Nindorera souligne la particularité de la situation au Soudan du Sud.
Nous avons quand même une situation où il y a beaucoup de conflits. Nous avons des régions où la situation est vraiment très conflictuelle, où il y a des conflits armés entre les forces gouvernementales et les forces de l'opposition, aussi avec des milices qui existent ici et là. Et donc c'est une situation qui est très préoccupante, d'autant plus que ce n'est pas vraiment des conflits entre combattants, c'est surtout les civils qui sont ciblés. Et on constate qu'il y a beaucoup de civils, de femmes, d'enfants, mais aussi d'adultes qui sont victimes justement de ces confrontations. Et je crois que c'est vraiment déplorable ce qui se passe, parce qu'au-delà des meurtres des populations civiles, il y a aussi beaucoup de blessés, il y a beaucoup de cas de viol qu'on a pu constater ici et là. Beaucoup de populations fuient le pays, se retrouvent en exil dans les pays voisins parce que justement ils ne peuvent pas rester dans un pays où leur sécurité n'est pas assurée. Donc c'est vraiment une situation assez préoccupante quand on voit le chiffre de personnes qui ont fui le pays ces derniers mois, ces dernières semaines, c'est franchement préoccupant.
Est-ce qu'on peut vraiment parler des droits de l'homme dans ce cas-là?
Il faut en parler pour dire justement que les droits de l'homme sont violés et qu'il faut que cela cesse. Donc c'est pour ça qu'il faut en parler. Mais malheureusement, il faut dire ce qui est. Et ce qui est, c'est qu'il y a beaucoup de violations des droits de l'homme. Il faut demander à ceux qui sont les auteurs présumés de ces violations de les stopper. Mais il faut aussi que ces personnes sachent qu'elles devront rendre compte des actes que ces personnes ont commis. Et ça, c'est important parce qu'il y a trop d'impunité au Sud-Soudan. Et avec cette série d'impunités, bien, c'est un avenir incertain qu'on réserve aux enfants sud-soudanais.
Quel pas est-ce que vous êtes en train de faire?
Oui, notre rôle consiste essentiellement à d'abord dire ce qui se passe, informer le monde entier sur certaines réalités, mais d'abord informer les autorités sud-soudanaises, parce que c'est leur responsabilité. Leur responsabilité est entièrement engagée en matière de protection des droits de l'homme, et il appartient au gouvernement en premier lieu de faire quelque chose pour que ces violations cessent. Donc nous apportons ces éléments au gouvernement en leur demandant de prendre des actions, mais ce n'est pas toujours évident, et à côté de cela, nous apportons aussi une certaine technicité, parce que nous leur donnons la possibilité d'améliorer, disons, leurs capacités, de leur donner, disons, des trainings, des formations pour essayer justement de mieux comprendre ce que sont les questions des droits de l'homme pour qu'elles soient dans une meilleure position pour assumer leurs responsabilités dans ce domaine.
Il y a des combats qui se déroulent un peu partout au Sud-Soudan. Est-ce que vous pouvez vraiment faire des descentes sur terrain?
C'est difficile parce qu'il y a effectivement beaucoup de combats, il y a aussi beaucoup d'insécurité, mais nous sommes aussi confrontés à des difficultés pour pouvoir avoir accès à ces endroits. Le gouvernement limite nos déplacements et cela vraiment contribue à ne pas rendre notre travail facile. Bon, mais il n'y a pas que nous. Il y a aussi par exemple les humanitaires qui n'ont pas accès quand les humanitaires veulent venir en secours aux populations qui sont dans le besoin. Et ça, c'est franchement beaucoup plus préoccupant parce qu'il faut effectivement que les déplacés, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a 20 000 personnes qui sont dans un endroit appelé Kodok et qui ont besoin d'être assistées. Mais l'accès n'est pas facilité par les autorités. C'est vrai qu'il y a des problèmes de sécurité, mais généralement, en tant que Nations Unies, en tant que mission de maintien de la paix, nous avons aussi des éléments armés qui peuvent assurer la protection justement des humanitaires, la protection des droits de l'homme. Et il faut donc qu'on arrive à trouver une entente pour qu'on puisse vraiment faire notre travail et à venir en appui aux populations qui sont nécessiteuses.
We want peace.
Hey there, darling.
We want peace.
The tribe is South Sudanese. Yes. I choose peace.
Lala Ligibelia, Nena Derin Salam.
Peace. Everybody want peace.
Est-ce que c'est aussi votre rôle de renforcer les capacités des nationaux?
Absolument, et nous le faisons, et je pense que de ce côté-là, il y a une certaine ouverture de la part du gouvernement. Pas plus tard que les trois dernières semaines, il y a eu trois formations dans trois endroits différents en ce qui concerne les conflits liés aux violences sexuelles, mais aussi des formations au niveau des droits de l'homme. Même en ce début de semaine, il y a en ce moment à Djouba une formation pour les SPLA qui a commencé, et il y a aussi des accords qui avaient été pris à l'époque pour aussi faire des formations au niveau des forces de l'opposition. Et je crois que c'est un passage obligé. Mais je crois que le plus important, c'est vraiment d'aller au-delà des formations. Il ne faut pas avoir fait une formation quelconque pour savoir que violer un enfant de 5 ans, 6 ans, c'est inacceptable. Il n'y a pas besoin d'avoir une quelconque formation pour cela. Donc c'est pour ça que ces formations, c'est vrai, c'est important, mais c'est vraiment beaucoup plus important de voir ce que les gens doivent faire et aussi prendre des mesures pour que les gens sachent que si ils violent une fille de 5 ans, ils vont se retrouver en prison pendant le temps qu'il faudra. Bon, malheureusement, nous avons aussi un autre défi, c'est que d'une part, il y a beaucoup d'impunité, mais parfois, quand le gouvernement veut prendre des réactions contre ces violations des droits de l'homme, parfois, il passe d'un extrême à l'autre. Donc aujourd'hui, il y a eu un discours du président de la République qui a demandé à ce que justement, quand des militaires vont être impliqués dans ce genre de violations et d'abus, eh bien que ces personnes rendent compte immédiatement et qu'elles puissent être exécutées le plus rapidement possible. Donc ce n'est pas non plus ce que nous préconisons. Nous pensons qu'il faut que ces personnes soient arrêtées, il faut que ces personnes aient le droit à une défense en bonne et due forme, il faut qu'elles aient droit à un procès équitable et qu'à l'issue du procès, on décide quelle sera effectivement la sanction qui leur sera appliquée. Et au niveau des Nations Unies, vous savez évidemment que nous sommes contre la peine de mort, mais la loi sud-soudanaise prévoit la peine de mort et c'est peut-être aussi une question que nous avons déjà entamée et nous discutons avec les autorités sud-soudanaises pour savoir dans quelle mesure cette législation pourrait être amendée.
Voilà, et c'est avec Eugène Nindorera, le représentant du Haut Commissaire aux droits de l'homme au Soudan du Sud, que se referme cette édition d'Escale, édition consacrée à un tour d'horizon de la situation des droits de l'homme dans deux pays africains dans lesquels sont déployées les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Escale, un magazine qui était préparé, présenté cette semaine par Jérôme Longuet, avec la contribution de Christina Silvero, de Jocelyne Sambira et de Florence Westgaard. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet et aussi retrouver sur les médias sociaux les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien d'ONU Info. En attendant, merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Escale.